Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, merci de nous écouter. Il est 11h05, c'est notre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux, comme chaque week-end, de vous retrouver. Sachez qu'on a débattu de plein de choses. C'était passionnant ce matin, on a parlé évidemment de l'Olympique de Marseille à 9h. On a évoqué la NBA Europe, c'était très chaud entre Sarah et Fred. À 10h, on a parlé aussi de Novak Djokovic, tranquillement cet après-midi. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. Simon Dutin, donc dans cette émission, David Douillet, Sarah Pitkovski et Fred Weiss dans quelques instants, la seconde DGG Donald Trump face à la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques. Le président américain va bientôt accueillir les deux plus grands événements sportifs de la planète. Faut-il déjà s'inquiéter? On ouvre le dossier. Et puis 11h45, le débat caché. Mais GG, vous ne savez rien. Et pourtant, il va devoir débattre. Alors, Sarah, Simon, vous étiez là hier. Ça s'est très mal passé hier, il faut bien le dire. Très mal passé. C'est-à-dire que vous avez remis en cause mon travail.
Pardon.
Surtout Sarah, faut bien le dire.
Et Julien
Benneteau.
Mais je pense que nos revendications ont été légitimes.
Donc à partir de maintenant, je vous demande même plus votre avis sur le débat caché.
C'est un excellent débat caché, Jean-Christophe.
Merci.
Allez, toi, tu vas revenir la semaine prochaine, toi.
Et dites-nous ce que vous en pensez. C'était excellent, mais ça n'a pas plu à Sarah. Donc je vous demande plus votre avis. D'accord, Sarah?
Ok.
C'est quoi le débat caché d'après toi?
Je te le dirai pas.
Pour parler de Donald Trump dans quelques instants, nous allons accueillir notre invité. Il s'appelle Kevin Vessière. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Fondateur du média FC Géopolitique, qui compte 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux, auteur de 4 livres sur la géopolitique et le sport, dont le dernier, Géopolapix. Je le prononce bien?
Très bien.
Très bien. Les grandes histoires géopolitiques des Jeux Olympiques aux éditions Max Milo. Merci Kevin d'être avec nous ce matin et avec les grandes gueules du sport. Tout va bien se passer. On s'embrouille un peu parfois, mais c'est toujours...
On en vient un peu au bas parfois, mais,
oui,
ça,
mais c'est
bon enfant en fait.
C'est
bon enfant. Pas...
Ça dépend où on place le bon enfant.
Ok, bon, on verra ça dans quelques instants.
J'ai peut-être m'éloigner de Fred quand même au c'est bout d'un ça. Moment.
Oui, et encore, tu vois, David Douillet, quand il vient au studio aussi, on s'éloigne parfois de lui.
Ouais, mais je crois que plus vite qu'eux.
Tu penses?
Ouais.
C'est possible.
Ah, moi, je le tente. Moi,
30 mètres, ça se tente.
Ouais.
On va organiser, évidemment, un petit truc. Allez, on passe à notre dossier ce matin à 11h. Et on va débuter avec, évidemment, cette citation de Donald Trump qui a dit un jour, « La doctrine Trump est simple, c'est la force. »
RMC, les grandes gueules du sport, passent la seconde. Ladies and gentlemen.
Let's go, ladies. The member associations of Canada, Mexico, and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
We will make America great again.
The host city of the Games of the 34th Olympiad 2028, Paris 24, Los Angeles 28.
God bless you. Good night, I love you. It's fun to stay at the
YMCA. Bah évidemment, hein, les Village People, hein, célèbre chanson des États-Unis, célèbre chanson remis au goût du jour par Donald Trump lui-même pendant sa campagne. C'est assez cocasse, évidemment.
Il a compris ce que représentait chaque personne de ce groupe ou pas?
Non, je pense qu'il s'est dit que le chantier c'était super bien, que l'Indien il adorait ça.
Et la police, encore plus.
Voilà.
La police,
les menottes, on adore. Les États-Unis de Donald Trump vont accueillir donc les deux plus grands événements sportifs de la planète, la Coupe du Monde de football dans un peu plus d'un an, en 2026, avec le Canada et le Mexique, c'est important de le préciser, et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, une sacrée vitrine pour le président américain dans un contexte international très incertain. Donald Trump qui s'est déjà accaparé le mondial un début mars en s'affichant dans le bureau ovale avec son ami, d'ailleurs qu'il avait invité à son investiture, Gianni Infantino, le patron de la FIFA. La musique qui fout les jetons et cette question, les GG. Faut-il déjà s'inquiéter pour ces deux événements? Oui ou non? Sarah Pitkovski.
Je suis sur le non. Le oui, pardon. Oui, il faut s'inquiéter.
Ok. Fred Weiss.
Tu vois pourquoi on s'embrouille avec Sarah? Parce qu'elle ne sait jamais ce qu'elle veut, vraiment. Moi, oui, je m'inquiète.
Ok, tu t'inquiètes. David Douillet.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Simon Dutin.
Non.
pas plus que ça. C'est un 2 contre 2. Évidemment, on demandera à Kevin Vessière son avis dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, c'est Julien Richard. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Salut Julien.
Donald Trump, en tout cas, entend bien être le leader de ces deux événements.
Donald Trump, grand amateur de sport et de décrets présidentiels. Il a pu lier ses deux passions le 7 mars dernier avec la visite donc de Gianni Infantino pour en signer un sur la Coupe du Monde 2026. Décret pour la création d'un groupe de travail pour superviser les préparatifs. La sécurité et l'accueil de toutes les personnes qui viendront aux États-Unis sont primordiaux, a lancé Gianni Infantino à son ami Trump. C'est pourquoi il est important que le gouvernement mette en place ce groupe de travail de la Maison Blanche sous la direction du président en personne. L'accueil de toutes les personnes, vraiment. L'Iran, par exemple, s'est qualifié mardi pour le Mondial. La sélection et ses supporters seront-ils autorisés à fouler le sol américain ? Selon l'agence de presse Reuters, l'administration Trump envisage d'instaurer des nouvelles restrictions aux citoyens de plus de 40 pays, dont l'Iran, avec notamment des suspensions totales de visa. Trump a également répondu à propos de la guerre commerciale qu'il a lancée contre les deux autres co-organisateurs de ce Mondial, le Mexique et le Canada. La tension, c'est une bonne chose, ça rend les choses beaucoup plus palpitantes.
Et ça, alors ça, c'est pour la Coupe du Monde 2026, mais qu'en est-il des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles ?
Trumpisme et olympisme peuvent-ils faire bon ménage ? Vous avez deux heures. C'est l'un des premiers gros dossiers de Kirsty Coventry, en tout cas la nouvelle présidente du CIO. Le président Trump est un grand amateur de sport. Il voudra que ces Jeux soient un succès, a expliqué la Zimbabwéenne, tout en précisant qu'il n'était pas question de déroger à nos valeurs de solidarité, ainsi qu'à la garantie que chaque athlète qualifié pour les JO puisse y participer et être en sécurité. Donc avec là aussi la question, l'épineuse question des visas ou encore des athlètes transgenres. Le 4 février dernier, Donald Trump a signé un décret, encore un, qui exclut les athlètes transgenres des compétitions féminines avec la promesse de leur refuser le visa pour les JO de 2028. Cassie Wasserman, le président du comité d'organisation de Los Angeles 2028, s'est montré rassurant. Qu'importe ce qui se passe en politique aujourd'hui, l'Amérique accueillera à bras ouverts les 206 délégations olympiques.
Bah nous voilà rassurés. Merci beaucoup Julien Richard. On n'a plus besoin de faire ce débat.
C'est bon.
Merci.
Il l'a dit,
pour toutes ces précisions. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Déjà un avis avant d'écouter Kevin Vessière, notre spécialiste de la politique du sport ce matin dans le studio RMC. Sarah Pitkowski, pourquoi t'es inquiète ?
La première inquiétude, je vais juste me poser sur celle de la Coupe du Monde de football, parce que la Coupe du Monde de football, ce n'est pas aux États-Unis, c'est United 2026, c'est-à-dire le Mexique et le Canada. Je vous rappelle ce qui se passe avec le Canada, c'est-à-dire qu'ils veulent annexer le Canada et ils renvoient tous les Mexicains. Donc déjà, comment les supporters vont-ils pouvoir transiter entre ces pays alors que cette Coupe du Monde, elle est répartie sur trois pays. Donc déjà, c'est ma première inquiétude. Comment va-t-il faire ou comment vont-ils faire pour pouvoir laisser les supporters naviguer ou si au final, les stades où vont se dérouler les matchs vont être de plus en plus centrés sur aux États-Unis et non plus sur les deux pays qui sont co-organisateurs. Donc déjà, c'est ma première chose. Après, évidemment, Julien a mis en exergue toutes les problématiques. Il y en a une autre aussi. Il faut savoir que les États-Unis sont le principal partenaire commercial du CIO. CIO devrait être d'une certaine neutralité. Comment le CIO va-t-il imposer des choses à Los Angeles ou aux États-Unis alors qu'il est financé en grande partie par les Américains? Et puis alors l'AMA, allons-y. Qui est le plus grand fournisseur de subventions de l'AMA, ce sont les États-Unis. Quand on sait que quand Trump veut quelque chose, il veut que Make America
Great Again,
ça va être Strong Again, c'est-à-dire qu'il va en faire une vitrine. Et que va-t-il se passer avec les Russes? Donc en fait, il y a une multitude de problématiques. Et encore, je vais vous parler d'un cas personnel. On sait combien de jeunes Américains, de jeunes étrangers s'entraînent dans les universités américaines avec des bourses. Si à un moment, ils décident qu'il faut un certain nombre de médailles et qu'il faut privilégier les Américains par rapport à ce qu'offrent les universités américaines dans certains sports, il va dire la sortie... C'est par là. Donc, il peut y avoir des décisions qui sont vraiment très dangereuses pour toute la géopolitique, mais même pour le sport mondial.
Ok,
voilà.
La réponse de Simon et puis après Kevin Vessière. Simon.
Moi, je suis pas inquiet parce que Trump, c'est un businessman avant tout et qu'on peut se raconter, tu vois, l'esprit du sport, le narratif que le CIO tente de tu sais, de faire subsister. Ça reste du business, énormément de business. Et là où il y a du business à faire, on trouve toujours une solution. Ça rentre toujours avec ses principes. Oui, qu'il y ait cette inquiétude autour, notamment des sportifs transgenres, parce qu'il y a des décisions assez inquiétantes et même des décrets déjà pris aux États-Unis. Ça peut être un petit peu inquiétant. Mais Sarah a rappelé les liens qui rapprochent le CIO des États-Unis. La FIFA, le CIO, c'est quand même pas des petites startups. Ils ont les moyens de tordre un petit peu la volonté, tout Donald Trump qu'il soit. Il y a l'image que tu vas renvoyer au monde, même si ça a l'air d'être le dernier de ses soucis lorsqu'il s'agit de politique intérieure. Là, c'est quand même des événements avec un rayonnement universel. Je rappelle que moi, j'avais couvert les Jeux Olympiques à Sotchi chez notre ami Vladimir Poutine. Bon, ça n'a pas...
Oui, t'as raison, mais on connaît la pseudo-démocratie qui est en Russie.
Regarde où est-ce qu'on va jouer les Coupes du Monde. Là, ouais. Je parle sous le contrôle de Julien, les JO à Pékin. Bon, on n'est quand même pas...
Oui, mais ce sont des pays qui veulent s'acheter une conduite. Trump ne veut absolument pas s'acheter une conduite, quelle qu'elle soit.
Je ne suis pas inquiet. Les matchs auront lieu, les compétitions auront lieu.
Qui voulait annexer le Canada. En fait, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même personne. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite.
Non, mais que ce soit catastrophique en termes de...
Non, mais qui n'a pas de limite, qui va vouloir justement prouver que c'est le meilleur, que c'est lui qui décide, c'est lui qui va faire plier le CIO, c'est lui qui va faire plier la FIFA. Il veut être fort, il veut se montrer fort à n'importe quel prix, en fait. C'est ça qui m'inquiète.
Ok, Kevin Vessière, justement, est-ce que toi aussi tu es inquiet? Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur cette situation aujourd'hui de Trump face à ces deux grands événements sportifs qui nous intéressent au plus haut point sur RMC?
Alors moi, je ne suis pas forcément inquiet quant à l'organisation des compétitions parce qu'elles vont avoir lieu. Par contre, je suis effectivement comme vous, je suis inquiet sur comment ça va se dérouler, en tout cas au quotidien, et Sarah l'a très bien rappelé avec les différents éléments qui pourront en tout cas être compliqués au niveau de l'organisation au jour le jour et même avant, avec la question notamment des visas, notamment pour les supporters et aussi pour l'Iran. Après, pour la Coupe du Monde, ce qu'il faut noter déjà, c'est que c'est vrai que c'est une Coupe du Monde qui est co-organisée avec le Canada et le Mexique, mais on a l'impression, enfin ça aussi par rapport à la politique de Trump qui met en place depuis son investiture en janvier, que ça va être une Coupe du Monde très américaine finalement, parce qu'Infantino, il allait voir Trump, il n'est pas allé voir en tout cas la présidente du Mexique ou le nouveau Premier ministre du Canada. Il a fait un peu comme on a pu voir avec Macron, il est allé se faire adouber par Trump en lui disant même que les États-Unis avaient une chance de gagner cette Coupe du Monde. Et derrière, on voit aussi que cette Coupe du Monde, il y aura 78 matchs sur les 104 qui seront présents, qui seront sur le sol américain, et il y aura que 13 matchs au Canada, 13 matchs au Mexique. Avec cette volonté de Trump, effectivement, de mettre les États-Unis au centre du jeu avec une volonté très offensive. En tout cas, il y aura tout à parier que cette Coupe du Monde, qui se voulait co-organiser, sera en fait très américaine, et ce sera une rampe de lancement pour la séquence qui s'ouvre avec les Jeux Olympiques 2028 derrière, qui seront aussi organisés, même si c'est organisé par la ville de Los Angeles qui est démocrate et Trump qui est républicain. Ça aura lieu parce que 5 milliards de téléspectateurs, parce que vitrine mondiale, et ça peut montrer la force des États-Unis, ce que veut faire Trump depuis en tout cas la prise de son mandat, avec une volonté politique affichée forte aussi là-dessus.
Et c'est cette force à tout prix qui peut vous faire peur, en tout cas Sarah. David Douillet, parce que ça nous amène à d'autres questions. David.
Moi, je ne suis pas inquiet parce que on a des précédents, et je vais remonter jusqu'à Moscou 80. Je ne vais pas parler de Pékin, je ne vais pas parler de Sochi, etc., etc. Je veux dire, tous les endroits qui nous ont inquiétés jusqu'à maintenant, le constat était de se dire bon ben voilà, ça s'est déroulé, c'est bien déroulé et tout va bien quoi. Et je dirais même plus que
non, ça s'est déroulé, tout n'allait pas bien, mais ça s'est déroulé. Il y a eu quand même un boycott en 80.
Ça s'est bien déroulé, Sarah. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais expliquer. C'est que à chaque fois que les Jeux sont entrés dans une terre pas forcément adaptée à la liberté, pas forcément adaptée à l'égalité, etc., etc., eh bien, les Jeux, le CIO, le sport amène un... Ce vent-là amène cette coloration, amène quelque chose qui reste dans le pays et qui oblige ce pays, malgré tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il peut faire, à accepter et à prolonger dans le futur cette ouverture vers le monde. Voilà, voilà ce que je dis. Et moi, je suis très optimiste quant à ça. Même si on a quelqu'un à la tête d'un pays qui a une position de rétractation sur lui-même, et c'est un peu ce qui se passe pour les États-Unis. Et en fait, en réalité, je pense que vis-à-vis de Trump, on est dans la posture. C'est quelqu'un qui attaque toujours pour revenir à une négociation derrière. Et c'est un businessman. Hein. Il est dans le deal en permanence. Donc je suis pas inquiet. Donc même si les États-Unis s'étaient refermés un peu sur eux-mêmes, eh bien je trouve que à la fois la Coupe du Monde comme les Jeux permettraient justement de redéverrouiller cette affaire-là.
Mais c'est l'idée centrale d'ailleurs de ce débat, Kevin Vessière. Est-ce que Trump est capable d'accueillir le monde? Est-ce que ces États-Unis-là sont capables d'accueillir le monde? Alors que tous les signaux renvoyés montrent tout le contraire.
Après, je pense qu'effectivement, les États-Unis sont capables d'accueillir le monde et aussi les supporters parce qu'ils ont déjà les infrastructures qui le permettent. Mais après, la question qui se posera, c'est est-ce qu'il y aura... la question des boycotts n'est plus pertinente parce qu'il n'y a plus de boycott au niveau, en tout cas, sportif. C'est plus des boycotts, on va dire, diplomatiques. Donc, à la limite, ça pourra toujours être ce cas-là qui sera intéressant à suivre. C'est est-ce qu'il y aura des boycotts diplomatiques de par des délégations politiques en amont des compétitions. Après, l'événement est tellement grand et les pays qui sont qualifiés veulent tellement y participer que la question de la participation, je pense, ne se posera pas du tout. Après, effectivement, ça posera des questions, des répercussions. Là, on voit par exemple la question du Groenland. Si le Danemark se qualifie ou par rapport à sa délégation, il y a un message politique derrière l'envoi d'une délégation à une Coupe du Monde et aussi par rapport à la présence sur le sol américain. Et donc derrière, ça aura peut-être des conséquences politiques qu'on peut pas encore, anticiper. Mais ce sera intéressant à suivre. Et puis il y aura cette question effectivement de l'Iran, où je pense que l'Iran sera qualifié et l'Iran pourra se rendre parce qu'il y aura peut-être une exception. Par contre, pour les supporters et pour la question des visas, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus importante, quoi.
Quand David disait effectivement que les Jeux, peu importe que ce soit Sochi ou Pékin ou Moscou, les Jeux se sont déroulés, on va quand même se rappeler qu'à Sochi, en 2014, il y a eu quand même un dopage d'État qui s'est mis en place, qui depuis a mis au banc du CIO et des compétitions les Russes. Je venais de vous dire que le principal instigateur... Oui, mais le principal...
Ça met en lumière les défauts.
Oui, ça met en lumière les défauts, mais qui finance l'AMA aujourd'hui? Et on sait que Trump, de toute manière, on sait que ces compétitions-là, c'est aussi pour monter sa grandeur et sa puissance. La fixation des médailles va être un objectif. Et je ne dis pas qu'il y aura pas de, que tout sera transparent. Mais il y a quand même des zones d'ombre sur lesquelles on peut se poser la question, sur la transparence de ces fameux contrôles, sur le rôle indépendant de l'AMA, sur le sol américain dans la préparation des Américains. On est obligé de se poser la question.
Surtout quand on sait.
La vérité éclate toujours.
Entre-temps, les compétitions auront lieu. La Coupe du Monde se sera déroulée.
Mais après, les gens sont destitués.
Non.
À un moment donné,
le pays est destitué, le sportif ne l'est pas. Aujourd'hui, les athlètes russes, sous bannière neutre, on leur a laissé la possibilité de concourir. C'est la Russie qui paye, c'est pas les athlètes.
Oui, mais un athlète qui triche, même si c'est un dommage d'État, il est destitué. Voilà, on lui retire sa médaille.
Ouais, ce sera après.
Mais aujourd'hui, tout se sait. Alors après, c'est combien en combien de temps. C'est-à-dire, oui, c'est toujours l'inertie pour obtenir la vérité. Mais la vérité, très sincèrement, elle éclate toujours. Donc, si c'est pour mettre en exergue ce genre d'erreurs qui sont immenses dans le monde du sport, qui gangrènent le monde du sport, ça se saura. Et c'est un très très mauvais jeu que pourrait c'est cette partie-là. Trump ne va pas là. Je pense pas. Il serait idiot.
Ça serait surprenant que Donald Trump soit idiot. Vraiment, ce serait peut-être la première fois. Moi, je suis choqué par
ça. Il peut pas jouer cette partie-là. Enfin, ça serait absurde.
Honnêtement, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un de raisonné et de raisonnable. Et oui. j'ai vraiment l'impression qu'on se trompe complètement. C'est pas du tout ça. Il faut se rappeler que ce monsieur a dit que les personnes handicapées avaient créé les incidents avec les avions. Ce mec est complètement déconnecté de la réalité, il s'en fout, il est capable de tout, et c'est ça qui m'inquiète. Et quand on compare à d'autres pays, je rejoins Sarah, ces autres pays avaient cette volonté de se promouvoir, de se vendre à l'extérieur comme étant des pays normaux, entre guillemets. Donc c'est complètement différent. Lui, il s'en fout de ouais. tout. On a l'impression que rien n'a de prise sur lui, qu'il est capable de critiquer n'importe quelle personne, n'importe quel genre, n'importe quelle ethnie, sans aucun problème. Moi, quelqu'un excusez-moi, qui est à la tête d'un État aussi puissant que les États-Unis, qui a cette façon de penser et cette façon de procéder, bah, je suis désolé, je ne sais pas comment c'est possible mais d'être complètement serein.
N'ayez Fred, pas la on parle quand même du plus grand pays de sport au monde qui a façonné l'histoire du sport dans tous les domaines, qui compte des figures qui ont un poids. Alors certes, peut-être pas aussi important qu'avec d'autres administrations, mais je veux dire, il n'est pas interdit de penser que certaines voix vont finir par s'élever. Le silence assourdissant des démocrates, même de certains républicains qui doivent un petit peu tomber de l'échelle quand même depuis l'entrée de Trump à la Maison Blanche.
Simon, t'as entendu les lettres qui ont été envoyées aux entreprises françaises.
On parle quand même, encore une fois, d'une. Alors qu'on se dirige pas vers la plus grande célébration, la plus grande, tu vois, les jeux les plus fraternels de l'histoire, la Coupe du Monde. Mais je veux dire, la Coupe du Monde, ça fait longtemps. Tu sais où elle va aller après. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est du business et que il faut arrêter de nous survendre l'universalité du sport. Tout le monde qui se tient par la main et.
Mais c'est, voilà. T'as raison, mais on ne vend pas cette universalité. On s'inquiète sur le fait de réceptionner ou de recevoir les différentes délégations, les pays, les sportifs, avec la neutralité que le sport promeut, en fait, l'égalité que le sport promeut. C'est ça, mais ils vont y aller, il n'y a pas de problème. Mais que des supporters ne puissent pas aller voir leur équipe nationale parce qu'on va leur donner un nombre de documents impossibles à remplir et qu'on ne donnera pas des visas. Il y a une problématique par rapport à ça. C'est en ça.
Et c'est pour ça que je disais qu'à ce titre-là, je pense que le CIO a les moyens de le faire plier là-dessus parce qu'il en va aussi de l'image des États-Unis. Et quand bien même l'image que Trump veut renvoyer n'est pas celle de l'Union, universalité de la fraternité, s'il veut renvoyer l'image d'une Amérique forte et qui sait ce qu'elle fait, il faut que les Jeux soient réussis et donc qu'il n'y ait pas des feux qui s'allument de toutes parts, de la part des délégations, de la part des instances, des fédérations, partout dans le monde.
David et après Kevin. Oui, David.
Je suis désolé, les États-Unis à l'image qu'elle veut donner et là, on parle de ce président actuel qui communique plus que les autres. Mais moi, les États-Unis me font peur depuis des lustres. Je vous rappelle que Bush nous a emmenés dans des travers où il a fait croire à la terre entière qu'il y avait des missiles, des armées dans certains pays, alors que c'était pas vrai.
Des armes de destruction massive en Irak. Oui.
Des armes de destruction, voilà, c'était pas vrai. Alors là personne dit que Monsieur Bush était quelqu'un d'horrible, alors que c'était le cas. Il l'a prouvé. On a eu ensuite un vieux Monsieur Biden, que je respecte beaucoup, mais qui pensait que François Mitterrand était encore au pouvoir en le confondant avec Macron. Faut quand même se remémorer les choses. Ça fait flipper. Moi, depuis des décennies, chaque président me fait flipper à la tête des États-Unis. C'est très inquiétant quand même. Et puis là, on a Monsieur Trump. Les États-Unis ont les présidents qu'ils méritent parce qu'ils les élisent et ils les portent au plus haut niveau. Donc il faut qu'ils assument à un moment donné ce qui se passera. Mais le sport est bien plus fort que ça, je peux vous le dire.
Kevin Vessière, déjà, est-ce que Trump veut absolument faire ces deux grands événements sportifs? Est-ce qu'il vraiment il veut se servir de sport? Et puis évidemment on parle pas beaucoup parce que c'est encore loin, les Jeux Olympiques à Los Angeles qui vont se disputer donc à Los Angeles, un camp totalement acquis aux démocrates. On imagine qu'il a envie de renverser la vapeur. Comment ça peut se passer?
Après Trump il a pu faire du sport en tout cas durant sa jeunesse et il a toujours en tout cas il instrumentalise le sport notamment en se mettant en scène avec des compétitions de golf. Donc il connaît le poids que peut avoir de sport. Après je suis pas sûr que il soit forcément un fan invétéré de sport, mais par contre il a compris en tout cas la valeur médiatique de ces événements et c'est la valeur géopolitique que ça peut avoir derrière pour appuyer sa politique et de dire que les États-Unis sont au centre du jeu et on va finalement remodeler le sport mondial à la sauce Trump. Et ce qu'a évoqué Sarah, qui était en tout cas intéressant, c'est que les États-Unis, c'est le plus grand financeur effectivement de l'Agence mondiale antidopage. Et on peut voir que là, à travers la politique de Trump, notamment économique, vous avez les droits de douane qui augmentent par rapport à d'autres pays. Vous avez la fin de l'aide au développement pour aussi beaucoup de pays dans le monde. Donc en fait, Trump, il est assez illisible dans sa politique. Et donc, par ses actions, il peut contraindre, que ce soit au niveau du dopage, que ce soit aussi au niveau du CIO. Qu'il a une politique en tout cas atypique, c'est vrai qu'il peut avoir un poids de nuisance vis-à-vis de ses compétitions. Il peut en tout cas remodeler ses compétitions à son image plutôt que ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau de la Coupe du Monde.
Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord du tout.
Et j'ai un truc rigolo à dire, quand il joue au golf, qui est son sport, lui, à 2 mètres du trou, il se donne le putt quand même, ce qui n'existe pas. Ou quand la balle est dans le rough,
il ment sur son index.
C'est un tricheur invétéré.
C'est un tricheur invétéré.
Non, mais quelque chose de plus sérieux. Les partenaires du CIO sont qui?
Non, ça c'est vrai.
Les plus gros partenaires du CIO, c'est qui? C'est Coca-Cola, c'est Visa, et il y a Procter & Gamble qui viennent de signer. Alors évidemment, il y a Panasonic, il y a des marques japonaises, mais les grandes marques aujourd'hui qui sont partenaires du CIO sont des sponsors américains.
Et Sarah, ces marques-là sont plus puissantes que Trump. Elles sont américaines et décident des règles. Arrêtez, mais c'est n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi.
Je suis pas sûr que
c'est ces marques-là qui dirigent.
On va être capable de mettre, c'est pas Trump qui dirige.
Ce sont justement tous les grands faiseurs, toutes les grandes entreprises qui dirigent. Qui porte nu? Je parlais tout à l'heure de différents présidents. Qui les a portés? Qui les a mis en place? Faut arrêter d'être naïf. Ce sont précisément tous ces acteurs-là. Les producteurs d'armes, les grands pétroliers pour Bush, etc., etc. Ce sont eux qui dirigent les choses. Donc faut arrêter de stigmatiser sur Trump parce que il dit un peu n'importe quoi et il fait n'importe quoi politique, il est très agressif, c'est derrière la deuxième lecture, la vraie lecture, elle est justement sur ces mastodontes économiques qui en réalité influencent ces choses, et ces mastodontes économiques influencent le sport depuis des lustres. Tu sais très bien que le CIO, et on l'a dit tout à l'heure, est influencé par l'Amérique, mais c'est pas par l'Amérique, c'est par les grandes entreprises, c'est autre chose, tu vois.
Je fais de la fiction avec Kevin Vessière, évidemment pas facile de répondre à cette question, mais on sait que la Coupe du Monde aura donc lieu aux États-Unis. Il y a 16 stades et tu l'as rappelé, la majeure partie des matchs c'est aux États-Unis. Il y en a 11 de ces 16 stades qui sont aux États-Unis, il y en a 2 au Canada et 3 au Mexique. Est-ce que selon la politique, selon comment ça se passe avec ses deux voisins, est-ce qu'on peut imaginer que Trump ait envie de tout récupérer? Est-ce que c'est possible?
Tout récupérer, on est quand même à un an de la compétition, je pense que ce serait quand même assez compliqué. Après par contre, au vu de l'organisation des matchs, peut-être que pourrait y en avoir moins au Canada ou au Mexique, ou après en fonction que par rapport à certains pays, notamment on parlait de l'Iran, et on voit que Trump il a fait une liste orange des pays, une liste rouge des pays où l'Iran sont déjà dedans. Peut-être qu'il y aura l'Iran pourrait par exemple ne jouer qu'au Canada ou au Mexique parce que ce serait plus simple pour eux derrière. Ça peut, je pense, s'envisager. Après qu'ils récupèrent toute la compétition, là on l'a vu, comme je vous l'ai rappelé avant, Infantino qui se fait accueillir en tout cas dans le bureau ovale. En tout cas Trump qui est très offensif aussi sur cette Coupe du Monde, qui essaye en tout cas aussi de mettre sur le côté le Mexique, notamment en renommant ce Golfe du Mexique Golfe d'Amérique, en considérant le Canada même pas comme un État mais comme un 51e État. On voit que par rapport à la politique de Trump, il commence déjà à gagner cette bataille où on a l'impression que cette Coupe du Monde, ce sera la Coupe du Monde des États-Unis et pas une Coupe du Monde co-organisée. Même ce qu'on avait évoqué, je crois, en début d'émission, le fait que c'était le slogan, c'était United. Finalement,
c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est Unity, c'était ce qui barrait la page principale.
Maintenant, ça a quasiment, c'est toujours là, en tout cas dans les statuts, etc. Mais ça a globalement disparu.
En communication, c'est pas présenté comme tel.
Et quand la Coupe du Monde aura lieu, pour en tout cas le grand public, on aura conscience que c'est la Coupe du Monde de Trump et pas la Coupe du Monde de trois États.
Merci beaucoup Kevin Vessière d'être venu nous voir dans le studio RMC dans les grandes gueules du sport. Je rappelle ton dernier livre Géopolympics, les grandes histoires géopolitiques des Jeux Olympiques aux éditions Max Milo. Merci beaucoup.
Merci.
Kevin
Merci.
Vessière et à bientôt. Je rappelle aussi que tu es le fondateur du média FC Géopolitics. Merci les GG pour ce débat passionnant. Merci beaucoup Julien Richard pour toutes les précisions sur ce dossier. Évidemment, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ce seront à suivre sur RMC. On aura le temps d'en reparler. On se retrouve dans quelques instants pour un petit zapping des GG. On s'en fout pas. J'ai notamment du Paris Saint-Germain qui n'est pas encore champion, mais 6-1 face à Saint-Etienne. Oui, on a des préoccupations un peu plus terre à terre là. Dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h35 de retour dans les grandes gueules du sport. Toujours David Douillet, Simon Dutin, Fred Weiss, Sarah Pitkowski. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le fameux débat caché. Oh, ça va vous intéresser, forcément. Vous allez avoir des choses à dire, forcément. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ?
J'attends de voir. Je suis comme Saint Thomas.
Ouais.
Je vois que je crois que ce que je vois ou ce que
on
j'entends.
On n'est pas fâché, Sarah.
Non, on n'est pas fâché. Tes débats étaient top jusque là.
Oui. Bah hier aussi.
Et jusque là.
Et tout a chuté. Après,
s'il est aussi bien qu'hier, moi ça m'a.
Ok, très bien.
Merci.
Bon, tout de suite, on va se faire un petit on s'en fout.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. Vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le PSG qui se rapproche encore un peu plus du titre. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. David Douillet.
Moi, je m'en fous.
Ok, j'aurais été sûr. Puis ça sortait du cœur. Hein. Sarah Pitkowski.
Moi, je m'en fous pas.
Ok.
Moi, je m'en fous pas.
Ok. Alors, tenu en échec à la pause, c'est quand même déjà une surprise face à Saint-Etienne. Le PSG, en seconde période, a déroulé, s'est amusé. Victoire finalement 6-1 à Geoffroy Guichard, avec notamment un doublé de Désiré Doué. Alors, à cette journée de la fin, Paris compte 21 points d'avance sur le nouveau deuxième, qui est Monaco, qui s'est imposé hier à domicile face à Nice. Donc, petit calcul de tête, même les GG peuvent y arriver. 7 matchs à disputer. Donc, ça fait 7 fois 3. 21. Il y a justement 21 points d'écart. Donc, pour ne plus être champion, parce que c'est possible, il faut maintenant que le PSG perde tous ses matchs et que Monaco gagne tous les siens.
Mais à la différence de buts, ils ne peuvent pas rester dehors. Alors, parce qu'ils en plantent quand même un certain nombre.
Il y a une trentaine de buts. Mais si tu te dis que Monaco gagne, ils vont marquer des points. Ouais. Et si Paris perd tout, ils vont perdre des buts. Donc ça peut jouer.
Ouais.
Égalité, ça peut être une fin de championnat exceptionnelle pour la première place.
C'est magnifique, le foot fiction, j'adore.
Alors, juste écoutez Luis Enrique, parce que lui, évidemment, il tremble avec 21 points d'avance.
Nous sommes déjà champions depuis plusieurs semaines. Ça n'a aucune importance. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que Nice et Monaco ne fassent pas nul pour qu'on puisse être champion au Parc des Princes la semaine prochaine. Dans tous les cas, on a été la meilleure équipe depuis le début et jusqu'à aujourd'hui.
Son vœu a été exaucé parce que ça, c'était avant la rencontre, avant le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. Il fallait qu'il y ait un match nul pour que le PSG soit déclaré officiellement champion de France. Il faudra attendre donc samedi prochain, 17h, ce PSG Angers au Parc des Princes. Oui, Simon.
On s'en fout pas parce que toi, tu dis que le PSG se rapproche du titre. On peut aussi dire que le PSG n'est pas encore champion hier. Tu te demandais si, avec tant d'avance, ça tuait le suspense de la Ligue 1. Donc non.
C'est vrai que le suspense, d'un seul coup, est complètement fou. Hein.
Alors, peut-être, sait-on jamais, pourquoi pas. Ça nous a donné l'occasion de voir encore une seconde période absolument remarquable du Paris Saint-Germain hier. Tu le disais, Saint-Etienne qui faisait le match jusqu'à la pause. Non, on s'en fout pas. Voilà, ça va de redonner un petit peu d'intérêt.
Ok, qui veut y aller?
Non, c'est toujours intéressant de voir ce genre de match, d'une part, et de ce genre de championnat. Le PSG était au-dessus, ils le méritent largement. Ils n'ont pas gagné mathématiquement, oui, mais tout le monde sait que c'est le cas. Donc non, on peut pas s'en foutre. Ils ont encore une fois bien joué, ils ont mis des buts, et ça fait plaisir à tout le monde.
Ok, Sarah.
Je regarde les matchs du PSG. C'est-à-dire qu'il pourrait gagner 2-1, il pourrait jouer à 70%. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce PSG-là, aujourd'hui, en deuxième mi-temps, ils ont des statistiques qui sont affolantes en termes de tirs cadrés.
C'est une équipe jeune qui a envie de jouer, en fait.
Ouais, ils ont une faim, contrairement à...
En termes de budget de club.
Oui, en termes de budget de club, c'est trois fois à l'OM, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, ils pourraient jouer avec dingue. Le pied sur le frein, et c'est pas le cas. Et puis ils ont quand même un record. Il y a un record. J'y sais avec Nantes sur les matchs, les matchs sans défaite. Non, il y a un record de Nantes.
Si le Paris Saint-Germain termine l'année invaincu, ce sera un record. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre Ligue 1.
Depuis le titre de Nantes en 94-95, où je crois qu'il y avait une trentaine de matchs.
Oui, mais c'était sur deux saisons. Et sinon, il y a des records à aller chercher. Et notamment celui d'être invaincu. Là, ce serait le record absolu pour le Paris Saint-Germain. Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Même si j'ai senti que David avait envie d'y aller. Mais il connaît la règle. Il a dit je m'en fous, donc il n'a pas le droit.
Mais d'ailleurs, il faudrait changer cette règle qui est idiote.
Ah.
Parce que des fois, tu peux apporter quelque chose au débat.
Non mais David, tu t'en fous, t'as pas envie de parler dans le débat.
Tu peux t'en foutre au début.
Ça t'intéresse.
Non mais tu peux t'en foutre au début et pas à la fin. Tu vois, quand le budget du PSG...
Non,
c'est pas ça. C'est parti de prendre une décision.
C'est absurde. Ouais,
c'est
mais
ton côté politique qui ressort là, hein. ni à gauche ni à droite.
Ouais, il faut changer cette règle qui est absurde.
Jean-Christophe, c'est une remise en cause
de mon leadership. Alors oui, mais c'est David Douillet, donc je l'écoute. Voilà, je l'écoute. Je dis pas que je vais le faire, mais je l'écoute. Deuxième information. Donc c'est Antoine Griezmann qui dépasse Lionel Messi, mais il le dépasse sur quoi? On s'en fout, on s'en fout pas. Est-ce que Fred Weiss?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Sarah? Oui, vas-y.
Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas.
On s'en fout surtout pas quand on parle d'Antoine Griezmann.
On s'en fout surtout pas. David Douillet.
Bah moi, je m'en fous plus parce que comme ça, ça me permet de parler quand je veux. Alors voilà, je m'en fous pas.
Bah voilà, t'as compris.
Au bout de 5 ans, ça fait 5 ans que
cette émission est pigée.
Non, mais je sais, mais ça me saoule cette règle. Voilà.
Très bien. Bon, j'aime bien quand on s'amuse le matin. Alors, titulaire hier contre l'Espagnol Barcelone, l'attaquant français de 34 ans a dépassé donc Lionel Messi en devenant le joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs dans l'histoire du championnat espagnol. Antoine Griezmann a donc disputé hier son 521e match. Il est seulement 9e du classement des joueurs les plus capés de Liga, mais en termes des étrangers, il est tout en haut de l'affiche. Pas sûr qu'il arrive à battre notamment l'un de ses coéquipiers, ancien coéquipier Coquet, qui avait disputé 672 matchs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi ça vous intéresse, Simon?
Parce que c'est une façon pour lui de laisser la place dans l'histoire du foot, la place qu'il mérite de laisser dans l'histoire du foot. Alors moi, je vais fendre l'armure, c'est mon joueur de foot préféré. Je considère qu'il a été injustement sous-estimé tout au long de sa carrière. Il aurait mérité le Ballon d'Or en 2018 que les esthètes ont préféré donner à Luka Modric.
On dit qu'il est top 3 équipe de France quand
même. Mon cœur saigne encore depuis sa retraite internationale. On saura un jour ce qui s'est passé, mais je pense qu'il manque cruellement à l'équipe de France et au football français. Je pense que on aurait dû lui donner le brassard de capitaine de l'équipe de France. Je pense que c'est un joueur rare, unique, et que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, et pour tout ce qu'il a apporté au foot français, je suis content qu'il laisse la place, il laisse cette trace dans un championnat espagnol qui a quand même vu passer quelques joueurs solides, joueurs étrangers un petit peu
solides, exactement. Solide, ouais. Il y a des Ronaldo, il y a des Messi. Voilà. Moi, je voudrais quand même aussi donner cette information parce qu'on le sait, cette semaine, enfin depuis quelques jours, il renégocie avec l'Atlético de Madrid.
J'espère qu'il va faire un de plus.
Ouais. Il va peut-être rester, donc ça lui permettra évidemment d'allonger comme ça ce record, mais c'est pas sûr, et peut-être s'envoler vers les États-Unis.
Moi, je trouve ça magnifique, cette longévité dans ce championnat aussi exigeant que celui-là.
Il n'a joué que là-bas, faut le rappeler.
Mais oui, mais c'est ça qui est assez incroyable. C'est, franchement, je crois qu'on ne se rend pas compte parfois en France de la chance qu'on a eu de l'avoir, et parfois on dit que nul n'est prophète en son pays, et peut-être que c'est le cas pour lui.
Ça me fait penser à une question, est-ce que c'est un événement?
C'est un événement. Voilà. Mais ce qui est premier, et je pense que Sarah sera d'accord avec moi sur ça, elle peut pas ne pas être d'accord. C'est le premier étranger.
C'est notre débat de 10h30. Sarah, rapidement.
Oui, je suis sur la même lignée que Simon. C'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis.
Ça t'aurait fait mal de dire que t'étais la même lignée que moi, c'est ça?
Non. Laisse-moi terminer. Non, mais je suis heureuse pour lui qu'il y ait cette forme de reconnaissance parce que il a joué toute sa vie dans le championnat espagnol, mais il n'a pas de titre de champion de France. Et c'est vrai que avec la qualité de ce joueur, c'est quand même une anomalie qu'il n'ait pas un palmarès plus riche en Espagne et en championnat. Donc d'avoir ce record par rapport à Messi, ça place l'homme. Voilà, et ça place le footballeur.
Ok, allez, on va passer à autre chose. Les GG, il est 11h44, dans quelques instants, le débat caché. Je vais concocter quelque chose de sympa.
T'as l'air content de toi, ouais.
Oui, je suis content de moi. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que quand je vais commencer, je vous préviens tout de suite, les auditeurs, je vais commencer mon petit, ce qu'on appelle dans notre métier, notre petit chapeau, c'est-à-dire mon petit lancement. Je sens que Sarah va me regarder avec des yeux tout ronds en me disant où tu nous emmènes. C'est dans quelques instants sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. À partir de midi, les paris RMC avec toute la Dream Team. On parlera de cette 27e journée de Ligue 1 et notamment ce derby du Nord. Ce soir, Sarah, le derby du Nord entre Lille et Lens. Ah oui. On dit aller qui?
Plutôt aller Lille.
Plutôt aller Lille.
C'est
juste parce que Lille est devant au classement.
Non, parce que je suis lilloise avant d'être lensoise.
Ça va faire un match nul comme d'habitude.
Ah ouais.
Un partout, tu pourras noter.
Écoute, je le note et je demanderai cette cote. J'espère qu'il l'a noté à Christophe Payet. Le un partout entre Lille et Lens. On en parle à partir de midi. Mais tout de suite, mes GG. Oui, David. Oui, Sarah. Oui, Fred. Oui, Simon. C'est le débat caché.
C'est le Nord.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre sur un sujet à la marge, évidemment. Une information distillée comme ça, récupérée par mes soins et mise sur la table des grandes gueules du sport. Le débat caché du jour. C'est ça.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes.
Kylian Mbappé qui égalise pour l'équipe de France. Désolé, je vais la refaire. Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Il en est même qui m'envie. Mais il ne
comme chaque année, au mois de mars, le journal de Mickey révèle la personnalité préférée des 7-14 ans en France. Et en 2025, nous avons un nouveau champion. Il fait une entrée fracassante dans ce classement, directement à la première place. Il s'appelle évidemment Léon Marchand, quadruple médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris.
On m'a contacté pour son biopic d'ailleurs.
Voilà. Non, ne fais pas ça, hein. On rappelle que notre ami Fred Weiss, si vous n'êtes pas au courant, a fait le biopic de l'abbé Pierre et quelques semaines après patatras. Donc non, ne fais pas le biopic de Léon Marchand. Alors, c'est en revanche la dégringolade pour Kylian Mbappé qui sort du top 10. Et c'est assez rare pour le souligner, l'international français n'est que 11e, alors qu'il truste les premières places depuis 6 ans. Il était premier en 2019 au sortir de la Coupe du Monde. Il était 3e en 2020, il était 3e en 2022, il était 3e en 2023, il était 4e en 2024 et donc 11e en 2025. Notre débat avec cette chanson de Johnny. Mbappé est-il encore l'idole des jeunes? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Bah, force est de constater que non.
David Douillet.
Non.
Simon Dutin.
Non.
Ok, j'ai trois dons, j'ai un oui. Fred, on commence avec toi. Pourquoi oui?
Oui, parce que c'est toujours Kylian Mbappé, c'est toujours le foot, ça fait toujours rêver tout le monde. Alors après, on a cette tendance, il y a deux tendances. Hein. Léon Marchand, bien sûr, les Jeux Olympiques à Paris, dont tout le monde s'en souvient énormément, et donc c'est le premier nom qui va venir à l'esprit. Et le deuxième, loin des yeux, loin du cœur. Malheureusement, on le voit un petit peu moins, et donc forcément.
Léon Marchand aussi.
Oui, mais on
surfe encore. Un petit peu
oui,
loin,
sauf
quand même.
On surfe encore sur les Jeux Olympiques. Ça a été quelque chose de tellement important qu'on surfe toujours sur ces Jeux Olympiques. Et Kylian Mbappé,
ça fait 8 mois.
En train de faire une très très belle saison au Real, et je suis persuadé qu'à la fin de saison, quand il jouera avec l'équipe de France, quand il aura gagné des titres avec le Real Madrid, on reparlera de lui. C'est juste que, comme on le voit un peu moins, on pense moins à lui spontanément. Mais ce n'est pas dire que ce soit pas l'idole de tous les footballeurs.
Sportivement parlant, ça s'est passé ces derniers mois. David Douillet.
Fred, ça ne tient pas ton histoire parce que j'ai.
Mais ça tient parce que c'est ce que je viens de dire.
Ça tient pas. J'ai le classement du journal de Mickey sous les yeux et dans le top 10.
Alors. Il est abonné depuis 45 ans.
Je suis toujours abonné et je vous engage même à le faire, ça vous ferait beaucoup de bien. Dans le top 10, on n'a pas que des sportifs, hein. Mais celui qui arrive cinquième, c'est Antoine Griezmann devant Olivier Giroud qui est septième et Zinedine Zidane qui est huitième. Tu vois, c'est assez évocateur quand même, tu vois.
Oui,
Antoine Griezmann, on le voit pas plus que Kylian Mbappé. Il est cinquième.
Tu as raison, voilà, David. Je pense que il a divisé ces derniers temps Mbappé. Ouais. Malheureusement, il a divisé. Il a divisé par ses affaires extrasportives, mais il a divisé aussi parce qu'il n'a pas joué en équipe de France. Et je pense
On disait que c'était un débat de journalistes, un débat de grandes personnes, alors qu'on disait les enfants à l'école, ils sont toujours à bloc autour de Kylian Mbappé et toutes ces histoires.
Les enfants à l'école sont toujours pour Zidane. Pense toujours à Zidane, les enfants à l'école maintenant.
Ceux de l'époque.
C'est intéressant de savoir pourquoi il a déçu. Il a déçu sur quelque chose. Et pourquoi il a déçu. Voilà, c'est intéressant de le savoir.
Et je pense que le fait qu'il n'ait pas joué les derniers matchs de l'équipe de France a dû jouer aussi dans le choix. Et effectivement, tu le disais, je pense qu'on est encore proche des Jeux Olympiques, donc ça reste quand même dans l'air du temps. Et tu as raison, dès qu'il va remarquer en équipe de France et dès qu'on va se concentrer sur l'Euro, exactement, il va remonter dans la hiérarchie sans problème.
C'est un épiphénomène.
Ok, épiphénomène. Simon.
Non, mais en effet, il y a l'effet Jeux Olympiques, mais bon, les enfants, ils ont quand même une sensibilité, et ils ont aussi suivi le micmac entre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, oui. J'y vais pas, je reste pas, une attitude de Mbappé un peu plus crispé quand même ces derniers mois face à la presse, un peu moins spontané, un peu moins salut les copains, Je suis le grand frère idéal. Donc il y a peut-être un phénomène d'identification un peu moins fort ces derniers temps, là où je rejoins Fred, c'est que en effet, bon, il n'y a pas eu l'effet de loupe qu'il peut y avoir quand il met un triplé en finale de Coupe du Monde, quand il sauve la patrie. Donc en effet, je pense que il fera pas moins bien que 11e l'année prochaine dans le classement.
Qui est le deuxième?
Peut-être. Alors justement, on va jouer les copains. Le premier, bon, je vous l'ai dit, c'est évidemment Léon Marchand. Qui est le deuxième selon vous?
Omar Sy.
David, tu dirais. Ah non, t'as le classement sous les yeux.
Moi, j'ai le classement sous les yeux.
Okay, il a voté, David.
Simon, tu dis quoi?
Ouais.
Teddy Riner. Ouais.
Teddy Riner. Oui, c'est effectivement Teddy Riner qui est le deuxième. Le troisième, c'est pas un sportif.
Pierre Ninet.
C'est un acteur. C'est pas Pierre Ninet.
Mais Omar Sy, tu l'as?
François
Civil.
Fred Weiss.
Non.
On a dit un vrai acteur, Fred Weiss, c'est bien.
Non, c'est pas très connu parce qu'il a fait un film qui a cartonné cette
Artus.
Année. Artus, et oui, évidemment. Avec un petit truc en plus. Quatrième, un chanteur, il est toujours dans ce
classement. Goldman.
Non, c'est pour les vieux.
Je sais pas, il y a Zidane.
Jules, tu veux dire.
Jules, oui.
Jules.
Soprano.
Je dis qui c'est. Soprano, évidemment.
Soprano, il y est tout le temps.
Cinquième, donc un footballeur.
Griezmann.
Là, c'est Antoine Griezmann. Sixième. Ils sont deux, ce sont des chanteurs.
C'est le bras.
Non,
ils chantent. Ils chantent. Tu sais que on se trompe sur eux. Ils sont pas que pongistes. Hein. Alors, on est duo magnifique.
Deux chanteurs. Ils viennent de Toulouse.
Ah, Big Flo et Oli.
Big Flo et Oli. Merci. Septième. Je suis assez étonné. Hein. Septième, c'est donc non. Avant Zidane.
Non.
Giroud, il y a Olivier Giroud avant Zidane. Ensuite, huitième Zinedine Zidane, neuvième pas facile. Il est devenu animateur, il cartonne évidemment, il est très drôle. Un animateur de jeu maintenant.
Théo Curin.
Non plus.
Jean-Christophe Drouet.
Non, malheureusement.
Devenu animateur de jeu.
Il avait une spécialité. Il était connu
pas
pour
un magicien.
Oui.
C'est Eric Antoine.
Eric Antoine, neuvième. Bonne réponse.
Là,
bravo à toi.
Il peut plus faire son biopic.
Ouais, là, c'est. Oui, ouais, il a plus de cheveux, mais oui.
Et le dixième, vous me l'avez cité. C'est un acteur. Il est souvent dans le
Omar Sy.
C'est Omar Sy. Ouais. Voilà pour les 10 premiers. David, ça existait, toi, à ton époque, le journal de Mickey? Enfin, je veux dire, les classements. Le classement.
Non, j'en ai jamais entendu parler, pour le coup. Je suis pas sûr que ça existait.
D'accord.
Pas sûr.
Après, il aurait été.
Non, mais ce qui est intéressant.
Mais tu vois, pour revenir à Mbappé, je pense qu'il a fait une vraie belle erreur, c'est de pas faire les jeux. Et je pense que s'il avait fait les jeux, il serait peut-être dans le classement là. Peut-être pas premier, mais il serait dans le classement.
Ouais. Il serait.
Ce qui est intéressant, c'est de voir les profils des qui influencent les jeunes aujourd'hui. Et on est toujours dans le sport et dans l'artistique.
Oui.
Voilà. Et le culturel un peu moins, mais donc.
Il y a toujours autant de femmes dans ce classement aussi.
Ah ouais.
Zéro.
Oui.
Ah oui, là ça
craint,
oui.
C'est la boulette.
Et Griezmann, il n'a pas fait les jeux et il joue plus en équipe de France. C'est bizarre quand même.
Ouais. Tu sous-entends quoi là?
Je sais pas, que c'est quand même un garçon fort sympathique, ce Grisou, décidément.
Ok, très bien. On a bien compris le fond de ta pensée. On rappelle quand même que Kylian Mbappé a sauvé la patrie hier, le Real Madrid, en inscrivant un doublé avec un but sur coup franc, une Panenka, et il a donné la victoire aux siens, 3-2. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci David, merci Sarah,
merci
Fred, merci Simon. On note le débat caché, un peu mieux qu'hier.
Ah, top. Non, vraiment bien. Très bien. Très bien.
T'as eu peur sur le journal de Mickey.
Oui, j'ai eu peur avec l'idole des jeunes, j'ai pas compris, mais non, top.
Ok, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. Et évidemment, les grandes gueules du sport seront à retrouver dès la semaine prochaine, dès samedi à partir de 9h. Merci à la production, à notre ami Kylian Vérov, à la réalisation Alban Azaïs pour ce week-end encore. Parfait, on se retrouve donc samedi prochain pour les grandes gueules du sport. Et à tout de suite pour parier avec nous sur le Derby du Nord.